l'homme adorait l'opulence de ce navire, tout comme il adorait les wagons de la Pullman Palace et les vastes cheminées. Mais ses douleurs aux pieds lui gâtaient son plaisir. Il admettait que le dérèglement métabolique qui les causait était dû pour une bonne part à son refus de réfréner sa vieille passion des vins fins, de la gastronomie et des cigares de luxe. La douleur lui rappelait chaque jour que son temps sur cette terre touchait à sa fin. Le prolongement de la vie d'un homme ne m'intéresse pas du moment qu'il a fait et plutôt bien fait son travail, avait-il confié à un ami juste avant de s'embarquer. Cet homme s'appelait Daniel Hudson Burnham et son nom était désormais connu à travers le monde. Il était architecte et il avait plutôt bien fait son travail à Chicago, New York, Washington, San Francisco, Manille et dans beaucoup d'autres villes. Sa femme Margaret et lui voguaient en compagnie de leur fille et du mari de celle-ci vers l'Angleterre en vue d'un tour d'Europe censé se poursuivre jusqu'au bout de l'été. Burnham avait choisi le RMS Olympique de la White Star pour sa nouveauté, son gigantisme et ses fastes. Lorsqu'il avait pris ses réservations, l'Olympique était même le plus grand paquebot de ligne du monde. Mais, 3 jours à peine avant son départ, un navire jumeau, d'un tonnage très légèrement supérieur, lui avait ravi ce titre en levant l'ancre pour son voyage inaugural. Burnham savait que ce sister ship transportait au même moment et sur le même océan, quoique en sens inverse, un de ses meilleurs amis, le peintre Francis Millet. Alors que les derniers rayons du soleil s'insinuaient dans leur suite, Margaret et lui se mirent en route vers la salle à manger des premières classes, un pont plus bas. Ils descendirent en ascenseur pour épargner à son pied le supplice du grand escalier, aux grandes dames de Burnham, que ravissait l'élégance de ses artistiques balustrades en fer forgé et de l'immense coupole de verre et de métal qui inondait les entrailles du navire de lumière naturelle. Son pied malade limitait de plus en plus sa mobilité. À peine une semaine plus tôt, il s'était retrouvé dans l'humiliante situation de devoir traverser en fauteuil roulant la gare de Washington, une de ses œuvres. Après avoir dîné en tête-à-tête dans le salon des premières classes de l'Olympique, le couple se retira dans sa suite, où, sans motif précis, les pensées de Burnham le ramenèrent à Frank Millet. Sur un coup de tête, il décida de lui envoyer un salut océanique via la puissante TSF Marconi de l'Olympique. Burnham sonna un steward, un homme d'âge moyen en uniforme blanc impeccable, transporta son message 3 ponts plus haut jusqu'à la salle de TSF attenante à la passerelle des officiers. Il revint quelques minutes plus tard, le message toujours à la main, et annonça à Burnham que l'opérateur refusait de l'envoyer. Rendu irritable par la douleur, l'architecte lui ordonna de remonter à la salle de TSF pour obtenir des explications. Millet n'était jamais loin de l'esprit de Burnham, tout comme l'événement qui les avait réunis, la Grande Foire mondiale de Chicago en 1893. Millet avait été l'un des plus proches alliés de Burnham dans son long et âpre combat pour que celle-ci voie le jour. Officiellement baptisée Exposition universelle colombienne, elle avait eu pour vocation de célébrer le 400e anniversaire de la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, mais était devenue, sous la houlette de Burnham, son bâtisseur en chef, une création architecturale enchanteresse, connue dans le monde entier sous le nom de « Ville Blanche ». Même si l'expo n'avait duré que 6 mois, 27,5 millions de visiteurs s'y étaient rendus, et ce, dans